Bonsoir. Le 13 avril 2015, le gouvernement a mis en place les commissions chargées de l'installation des nouvelles provinces. Celles-ci avaient notamment pour objectif établir l'état des lieux des provinces et répartir le patrimoine de ressources humaines et financières entre les nouvelles provinces. Par ailleurs, ces commissions devraient déposer leur rapport dans un délai de 30 jours. Où en est-on avec 30 jours après dans ce processus? C'est notre thème de ce soir et pour en parler, je reçois Maître Fabrice Kamala Mukongia. Bonsoir Maître.
Bonsoir.
Vous êtes acteur de la société civile, également auteur d'une demande portant retrait des décrets du Premier ministre sur les commissions chargées de la mise en place des nouvelles provinces. Monsieur l'ambassadeur André Alain Atundu, bonsoir Monsieur l'ambassadeur.
Bonsoir.
Vous êtes communicateur de la majorité présidentielle et président du parti politique Convention pour la démocratie et la République, CDR. Il va nous rejoindre dans un tout petit moment, lui, mais c'est Maître Soudi Alimasi Kimputu, expert en décentralisation. Entre temps, bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le 13 avril dernier, le Premier ministre a signé le décret mettant en place des commissions, les commissions qui devront procéder à l'installation des nouvelles provinces démembrées. Ces commissions avaient 30 jours de travail qui devraient être sanctionnés par un rapport final à présenter devant les assemblées provinciales des provinces démembrées. Askin Zigbia Tayourou nous donne les détails sur ces commissions.
Ils sont au total 90 membres qui forment 6 commissions d'installation de nouvelles provinces. Chaque commission compte 15 membres dirigés par un haut fonctionnaire de l'État qui a une expérience éprouvée en matière administrative et de la chose publique. Ces commissions ont seulement 30 jours de travaux et en feront le rapport final devant les 6 assemblées des provinces démembrées, notamment la province de Bandundu, Équateur, Kasaï Occidental, Kasaï Oriental, province de Katanga et province orientale. D'après les décrets du gouvernement central, les actuelles assemblées provinciales ne pourront que prendre acte du rapport final de ces commissions sans débat. D'après le secrétaire général du gouvernement, c'est à partir du 30 juin 2015 que les nouvelles provinces devront effectivement entrer en fonction avec de nouveaux gouverneurs qui seront élus momentanément par des actuels députés provinciaux arrivés fin mandat.
Merci à Askin Zigbia Tayourou. Pourquoi ces commissions n'ont pas encore commencé à travailler? La réponse avec Albert Paka, conseiller juridique au cabinet du vice-président. Premier ministre, ministre de l'Intérieur, il est au téléphone de Berry Franklin Luchaka.
Si le 13 avril, effectivement, le gouvernement a installé ces commissions, c'était évidemment pour rester dans les timings qui a été fixé par la loi de programmation. Comme on a vu que le travail était d'une grande ampleur, on le savait depuis toujours, il a été question de capitaliser un ensemble de travaux qui ont déjà été effectués, ce qui serait évidemment aussi une approche plus harmonieuse et plus pertinente. Il s'agit des travaux de plans de développement quinquennal de la plupart des provinces qui ont été effectués. Ces plans, évidemment, renferment des informations très utiles et qui sont nettement capitalisables dans le cadre des travaux de commission. Voilà pourquoi il a été question de refaire un cadrage simplement de leur mission. Tout laisse croire qu'effectivement, dans les tout prochains jours, ils remettront les pieds à l'étrier, ils prendront les avions nécessaires pour aller effectuer ce travail. Alors, à ce stade, il est vrai que tout laisserait croire qu'on serait en retard, mais on ne doit pas nécessairement voir le délai d'un mois pendant lequel ils devaient faire leurs travaux, mais on doit plutôt avoir le regard vers le délai de 120 jours au total pendant lequel la procédure de création de nouvelles provinces devait s'installer.
Est-ce que le problème budgétaire se pose aussi?
Il est vrai qu'on n'a pas trop longtemps débattu des aspects des implications budgétaires de ces programmes d'installation de nouvelles provinces. Il est simplement question, à ce stade, de recadrer le tir et de mettre surtout cette opération en total connie avec d'autres agendas du gouvernement. Je parle plutôt de l'agenda électoral qui a un trait direct avec le cadre de l'opérationnalisation de nouvelles provinces.
Voilà, André Alain Atundu, vous êtes communicateur de la majorité présidentielle et président du parti politique Convention pour la démocratie et la République, CDR. Monsieur l'ambassadeur, comment vous analysez ce processus 30 jours après, les commissions n'ont pas encore commencé à travailler?
Je ne peux pas analyser mieux que le conseiller du ministre. Il nous a donné des éléments pertinents qui justifient cette non-présence de ces commissions sur le terrain, et donc, comme on dit, contre les faits, les arguments ne valent rien. Ce qui est important à noter, c'est que la volonté du gouvernement est inchangée, c'est-à-dire que les nouvelles provinces doivent, les anciennes provinces doivent être démembrées selon la Constitution, et que les commissions chargées de faire l'état des lieux, d'évaluer les provinces, de distribuer le patrimoine, vont fonctionner et fonctionnent. Et là, le conseiller a exploité, n'est-ce pas, une largesse de la loi, c'est-à-dire, au lieu de parler de 30 jours, il parle de 120 jours. Et à l'en croire, donc prochainement, toutes les questions de logistique seront résolues, et donc il faut espérer que, effectivement, dans les 120 jours, la commission pourra fonctionner et rendre son rapport acquis de droit.
Et donc, à en croire le conseiller, vous venez de le dire, on est encore dans les délais.
D'après l'interprétation du conseiller.
Alors, beaucoup de gens se posent la question de savoir pourquoi avoir mis ces commissions en place du moment que l'on n'avait pas encore visiblement fixé tous les termes de référence.
Non. Vous savez qu'une décision prise doit être appliquée. Et les modalités d'application, c'est là où se trouve le diable. N'est-ce pas ? Les commissions ont été prises, c'est une première étape essentielle. Et les modalités pratiques, chaque département intéressé se met, je crois il y a une dizaine de départements intéressés, plans, etc. Ils doivent coordonner et assurer une présence non seulement effective sur le terrain, mais une présence efficace. Et vous savez, il y a parfois des problèmes, genre coordonner les transports, etc. Mais je pense qu'ici, ce qui est important, c'est la volonté. Parce que c'est un défi national. Eh bien, nous devons tous nous mobiliser pour mettre fin à ce défi, pour vaincre ce défi.
Oui, la volonté, c'est le défi, monsieur l'ambassadeur Atundu. Mais est-ce que la volonté devrait-elle empiéter sur les délais légaux?
Non, non. Mais quand j'ai lu le texte de la loi, je lis le recours ou la demande en annulation de maître
Fabrice Kamala,
de maître Fabrice, je me dis que peut-être que dans les dispositifs du Premier ministre, il n'a pas été prévu les cas de force majeure, les cas non conformes. C'est peut-être cela. Et le conseiller du ministre a trouvé une parade qui puisse sauver l'essentiel, notamment dans le timing. Je crois que c'est ça le plus important. Il y a la volonté politique, il y a le droit. Le droit ne peut pas gêner la volonté politique qui est appelée à assurer un fonctionnement finalement harmonieux des institutions. Tout comme la volonté politique, évidemment, dans la mesure du possible, doit tenir compte du droit, mais comme je l'ai dit, contre les faits, les arguments ne valent rien.
Alors, qu'est-ce que vous répondez à tous ces observateurs qui affirment que, selon certaines sources, qu'il s'agirait essentiellement d'un problème de budget?
Non, je n'ai pas entendu le conseiller du ministre dire qu'il s'agissait d'un problème de budget. C'est un problème de logistique, de façon générale, si j'ai bien compris. Alors, la logistique, c'est plus que le budget. La logistique, c'est aussi l'organisation des déplacements, c'est l'emplacement des commissions, c'est la mise à disposition d'un certain nombre d'éléments pour pouvoir fonctionner sur place, etc. Non, il ne s'agit pas d'un problème de budget, c'est un problème de logistique.
Et que répondez-vous à tous ceux qui ont parlé de précipitation dans la mise en place de ces nouvelles provinces?
Par rapport à quoi?
Par rapport à la manière dont les choses sont organisées, des commissions qui sont mises en place, qui ne travaillent pas, et on a l'impression qu'on peut aller vite alors
la
que...
La précipitation, c'est par rapport à la Constitution. Ça devrait être par rapport à la Constitution. Or, vous le savez, que par rapport à la Constitution, les nouvelles provinces sont en retard. Et donc, il faut faire les bouchées doubles pour essayer de se conformer dans la mesure du possible aux prescrits de la Constitution. C'est ce que nous sommes en train de faire.
Un délai de 30 jours, le conseil juridique du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, dit qu'il faut le mettre dans les 120 jours. Pensez-vous que c'est assez suffisant pour faire à la fois tout le travail demandé à ces commissions, faire l'état des lieux? Pensez-vous que dans ce délai-là, c'est assez suffisant?
Je dois avouer honnêtement...
Pour un pays aussi grand que la RDC.
Honnêtement, je dois avouer que je suis incapable de répondre à cette question. C'est une question qu'il faudrait poser au conseiller du ministre, qui, lui, est au four et au moulin, pour savoir exactement concrètement comment ceci se pose et pourquoi il y a eu ce délai. C'est que probablement, ils ont estimé que compte tenu de la dimension de notre territoire, des exigences des missions de ces commissions, eh bien, 120 jours devaient être suffisants. Sauf en cas de force majeure, sauf en cas de situation non conforme, c'est pour ça que je dis, c'est peut-être la faiblesse de ce texte, de ce décret du Premier ministre, c'est qu'on n'a pas prévu les cas de force majeure et de situation non conforme.
Merci, Monsieur l'ambassadeur André Alain Atundu. Maître Fabrice Kamala Muhungia, vous êtes acteur de la société civile, auteur d'une demande portant retrait des décrets du Premier ministre sur les commissions chargées de la mise en place des nouvelles provinces. Qu'est-ce que vous reprochez à ces décrets?
Substantiellement, il y a des grèves sur le plan du fond et aussi sur le plan de la forme. Je viens sur le plan de la forme. D'abord, l'article 5 de la loi qui veut que ces décrets soient pris a donné 15 jours pour que les décrets soient pris. Hélas, contre toute attente, nous avons constaté que ce 46 jours après, jour pour jour, que son Excellence Monsieur le Premier ministre en Conseil des ministres a délibéré, a pris ces décrets. Et sur le plan de fond, il y a de remarques substantielles par rapport à l'existence même des commissions. Parce que les décrets ne créent pas des commissions. En cela, les décrets ne répondent pas à la mission principale lui assignée par la loi. Les décrets se limitent à fixer l'organisation et le fonctionnement des commissions, sans pour autant les créer au préalable. Et le faisant, les décrets présentent une fissure qui les pose à l'illégalité. Trois sur le plan de fond, ces décrets pêchent par excès de pouvoir, notamment par l'extension des missions de commission, qui sont d'ailleurs si laconiquement définies dans la loi, mais curieusement, les décrets lui-même sont intitulés. Les décrets fixent l'organisation et le fonctionnement des commissions d'installation des nouvelles provinces, des provinces démembrées, comme si ces provinces l'étaient déjà. Or, les provinces ne sont pas encore démembrées, les provinces sont à démembrer. Et en cela, les décrets approchent. Et plus encore, allais-je dire, le décret, quant à l'organe habilité à recevoir le rapport de la commission, le décret parle de l'Assemblée provinciale de la province démembrée. Or, la loi qui veut son existence, parle de l'Assemblée provinciale existence. Voilà autant de départs si significatifs qui existent entre la loi et les décrets, qui exposent ces décrets à l'illégalité et qui les condamnent essentiellement au retrait ou à l'abrogation.
Alors, vous avez suivi, on a tous suivi, le conseil juridique du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui disait qu'il ne fallait pas seulement avoir le délai de 30 jours, par exemple, et qu'il fallait mettre toutes ces opérations dans un délai de 120 jours. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est une interprétation extensive de la loi, alors que la loi, je l'ai dit comme une régaine, la loi est la raison pure. Elle donne certes lieu à beaucoup d'interprétations, mais surtout pas des doutes, moins encore des contredits. Lorsque la norme prescrit un délai, la norme donne à l'acteur politique un timing pour poser un acte politique précis. Mais lorsque l'acteur politique ne pose pas cet acte dans les délais prescrits, on peut comprendre qu'on tombe dans la désuétude. Donc, nous ne devons pas hisser des compromis à des normes et des attentes politiques à des normes, et rabaisser des normes à des compromis. Donc, nous avons fait un chemin d'état de droit que nous sommes en train de battre, de construire, se consolide par le respect des normes. Mais tous ces l'irrespect des normes, c'est, à mon sens, ce sont des coups de crosse dans les fondations de l'État démocratique que nous nous assignons de construire.
Et donc, vous, vous donnez raison à tous ceux qui pensent que ce processus est en train de se mettre en place dans la précipitation.
Oui, oui, toutes ces lacunes en témoignent de manière beaucoup plus manifeste. Toutes ces lacunes, parce qu'on ne peut pas penser, imaginer qu'il y ait autant de fissures dans un acte de haute gamme politique. J'attendrai une cohérence et une logique dans cet acte. Hélas, nous comprenons que c'est dans la précipitation que cet acte a été pris, tous ces décrets, que donc nous ne sommes pas prêts, il faut le reconnaître, à aller dans ce processus avec toutes ces lacunes. Nous devons nous arrêter un moment, corriger des erreurs et avancer si possible.
Alors, dans la requête que vous avez formulée, je vais lire un paragraphe. Vous dites « Une question importante mérite d'attirer l'attention de l'auguste autorité auteur des actes attaqués. Qu'adviendrait-il si les gouverneurs des provinces à démembrer refusent de se soumettre aux actes pris par ces commissions en arguant que ces dernières n'existent pas puisque n'ayant jamais été créées ?»
Tout à fait, parce que les commissions ne sont pas créées. C'était la mission principale assignée au décret par la loi. L'article 3 du décret crée des commissions des provinces démembrées. Or, la loi dit que des commissions doivent être créées, une commission par chaque province à démembrer. Donc, il y a une nuance, une province à démembrer, une province démembrée. Donc, sur le plan textuel, pour l'instant, les commissions n'existent pas. Comment des commissions qui n'existaient pas peuvent poser des actes? Donc, les gouverneurs des provinces seraient en droit de refuser de recevoir ces membres qui ne font partie d'aucune structure.
Et donc, comme on dit, les diables se trouvent dans les détails.
Non, je pense que les détails constituent même la force de l'édifice. Des nations.
Alors avant que je ne donne la parole à Maître Soudi qui vient de faire son entrée dans ce studio, Maître, vous avez déposé cette requête, quelle est la réponse que vous avez reçue?
Jusque-là, non, nous attendons de nous conformer au délai légal. Si Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, ne nous répond pas dans le délai légal, nous serons obligés de saisir la Cour suprême de justice faisant office du Conseil d'État.
Voilà. Maître Soudi Alimasi Kimputu, vous êtes expert en décentralisation. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Maître, ça fait 30 jours, les commissions ont été mises en place, n'ont pas encore commencé à travailler. Vous avez suivi les argumentaires de l'ambassadeur à Tundu, de Maître Fabrice Kamala, qui vient de parler. Quelle est votre analyse?
Merci beaucoup. Je crois que nous sommes dans un pays où lorsque les gens qui connaissent parlent, on a tendance à tout politiser au lieu de prendre les considérations des techniciens de ce pays. Et on préfère avoir confiance peut-être à des petits expatriés qui viennent donner des leçons par-ci par-là. C'est ça qui nous fait très mal, nous qui avons une certaine expertise dans ce genre de choses.
Et donc, vous n'avez pas été ni consulté ni entendu.
Je vous ai dit sur ce plateau que le délai est irréaliste et le mal sur cette question est institutionnel. Il ne faut pas s'en prendre au gouvernement qui doit chercher des voies et moyens pour appliquer quelque chose qui, au départ, a été très mal voté par le Parlement. Comment voulez-vous que dans les 120 jours, qu'on puisse envoyer, donc constituer des commissions, envoyer des gens qui vont descendre. Est-ce que ceux qui ont voté cette loi, ils sont 500 dans l'Assemblée nationale? J'espère qu'ils viennent de toutes les entités. Est-ce que quelqu'un qui est, par exemple, à Bokungu, cette commission-là, pour arriver à Bokungu, qui est là, et revenir en Bandaka avec un rapport, vous pensez qu'ils vont aller avec un esprit de vie? Mais non, il y a des endroits où il doit emprunter des pirogues pour arriver. Nous avons dit que 120 jours, c'est non seulement irréaliste, parce que le travail de la commission, constituer une commission qui va aller statuer sur l'actif et le passif des provinces à démembrer, et j'ai donné ici sur ce plateau l'exemple de l'ancien Kivu, ou dans les passifs jusqu'à aujourd'hui, les choses ne sont pas encore réglées. Il fallait un délai raisonnable. Et c'est notre propre Parlement, c'est là que j'ai dit que le mal est institutionnel, qui a voté cette loi. Et je vous ai dit que cette loi ne sera jamais appliquée dans les termes où elle a été votée. Ici, moi, je me dis, par exemple, que nous venons, je vois les confrères en train de se poumonner sur la forme et le fond. Vous avez très bien suivi, l'ambassadeur Atundu, il vous a dit sur certaines questions, il se réserve de répondre. C'est ça la rationalité. Le délai en lui-même, c'est un délai irréaliste. Dans 30 jours, on ne pouvait pas faire ce qu'on a demandé de faire. Descendre sur les provinces, essayer de faire l'évaluation de l'actif et du passif, arriver à dispatcher tout ce qui est patrimoine sur les nouvelles provinces à constituer. Je ne sais pas ce que les gens comprennent par patrimoine d'une province. C'est tout ce qu'il y a comme visible.
Peut-être qu'on s'imagine qu'il s'agit de quelques immeubles dans la province.
C'est vraiment dommage quand ça vient d'un parlement qui est le nôtre, envers lequel nous avons beaucoup de respect. Et aujourd'hui, on va tout faire. Ce gouvernement va se battre, va monter et descendre. Ne va pas respecter ce délai parce que la question elle est difficile. Ici, évidemment, parmi autres choses, il y a nécessairement cette question des budgets, des logistiques, l'ambassadeur l'a dit, mais le mal, il est par rapport au délai qu'on a assigné dans cette loi-là.
Alors, maître, vous parlez d'un, vous dites qu'il fallait un délai raisonnable, combien de temps, par exemple?
Non, mais moi, je pense, pour ceux qui circulent ces pays comme nous, il ne faudra pas demander à une commission qui va aller faire une évaluation de l'actif et du passif pour leur donner 30 jours, c'est un mois. C'est impossible. Vous avez suivi que même la constitution même des commissions a épuisé tous les 30 jours à Kinshasa. Et nous connaissons comment nos institutions fonctionnent. Je crois qu'il fallait donner un délai suffisant pour faire cela. Il a fallu 3 mois pour que ces commissions-là terminent à faire cette évaluation-là. Et le reste d'activité, il fallait donner d'autres délais, mais pour cette évaluation, parce que c'est la partie principale, il fallait donner au moins 3 mois.
Alors, je reviens à la même question que j'ai posée à l'ambassadeur Atundu, à maître Fabrice Kamala. Y a-t-il de la précipitation dans ce processus, maître Soudi?
Moi, je pense qu'il n'y a pas de précipitation, mais seulement nous sommes en train de tâtonner dans les modalités de mise en œuvre de cette installation. Nous tâtonnons. Et pourquoi nous faisons ce tâtonnement? Parce que chacun veut tirer tout simplement les draps de son côté. On politise ce qui n'est pas à politiser. Ça, c'est une question technique. On devait laisser cette question aux techniciens. On appelle même les gens de l'administration pour aller le faire. Plutôt que les politiciens puissent sauter là-dessus, commencer à y mettre des politiques. Cette partie-là, elle n'est pas politique. Elle est tout simplement technique. C'est ça mon point de vue.
Alors, la faisabilité compliquée, on politise les choses. Peut-on dire qu'on est mal parti?
Moi, je crois que si, comme il s'agit d'une loi, chaque fois que nous violons ce chronogramme-là, j'ai suivi le conseiller qui a dit, mettons ça dans les 120 jours. Pas du tout. Les 30 jours, c'est un chronogramme. 30 jours, vous faites ceci. Autant de jours, vous faites là. Autant de jours, vous faites cela. Si vous ne respectez pas ce qui devait être fait dans les 30 jours, c'est que vous avez violé la loi. Et vous allez voir que les choses vont se faire au-delà des 120 jours. Ce qui va demander carrément qu'on puisse amender cette loi-là. Voilà là où se trouve le problème. C'est pas dans les...
Et donc le processus est déjà biaisé.
Tout à fait.
Monsieur l'ambassadeur Atundu, il y a pour vous cette réaction qui nous vient des États-Unis.
Alors, Malila, je vous appelle depuis New York aux États-Unis. Il y a plus de 13 ans que M. Kabila est aux commandes de la RDC. Pourquoi le découpage territorial n'avait pas eu lieu après la transition ou après les élections de 2006? Le gouvernement actuel fait d'énormes efforts pour qu'il y ait les glissements. Croyez-vous qu'avec la grandeur de la RDC, cette commission peut réussir à établir absolument et correctement cet état des lieux dans 30 jours seulement avec les manques de bonnes routes pour aller dans la RDC profonde? Je ne crois pas du tout.
Monsieur l'ambassadeur, réaction.
Je voudrais répondre à ce compatriote en me référant aux propos de Maître Soudi. Il ne faut pas politiser des questions techniques. Nous sommes en train de voir les difficultés réelles qu'il y a à mettre en pratique une loi voulue par la Constitution depuis 2006. Et donc, Il ne s'agit pas de la durée du président Kabila, il ne s'agit pas de glissement, c'est un problème technique. Nous sommes en train de voir, tiens, techniquement, est-ce que les 30 jours sont possibles? Maître a dit qu'il s'agit d'un chronogramme. Alors, moi je vous ai dit, quand j'analyse le décret du Premier ministre, il y a deux cas qui ne sont pas prévus. Le cas de force majeure, le cas de situation non conforme qui ne permettent pas, comme maintenant, de respecter ce chronogramme. Qu'est-ce qu'on fait? Et puis, il y a la réaction républicaine de maître Fabrice, qui dit non, moi j'attaque parce que le délai n'a pas été respecté, le décret lui-même n'a pas été pris dans les délais, etc. Donc nous sommes aujourd'hui en train de voir comment relever ce défi. Il ne s'agit pas ici de politiser des questions techniques.
Alors en parlant de politisation, Maître Soudi l'a dit avant que qu'on écoute Gaylor Malela de New York, il faisait notamment allusion à la classe politique. Pour répondre à ses propres termes, le mal est institutionnel. Le problème a commencé au niveau du Parlement.
Bon, je ne sais pas. Le Parlement, c'est l'organe législatif. L'organe législatif, c'est une institution qui est chargé de mettre sous forme de loi, dans le respect des règles de cette activité qu'on appelle la légistique, n'est-ce pas, la volonté de l'ensemble. Et donc, les travaux qui se font en commission sont réputés avoir été faits par les personnes expertes, ou tout au moins au courant des tenants et des aboutissants. Parce que dans les commissions qui font la loi, il y a des experts, on peut faire appel aux experts. Mais je comprends que Maître Soudi se plaigne parfois du rôle exorbitant qu'on donne aux experts étrangers qui ont une autre sensibilité, qui parfois viennent tester chez nous ceux qui n'ont pas réussi chez eux, ou qu'ils ont l'intention, si jamais ça réussit, de le faire chez eux. Ça, c'est une préoccupation tout à fait légitime, n'est-ce pas? Mais je pense que, de façon générale, notre Parlement, son objectif, c'est de réaliser ce que, ensemble, nous avons convenu dans la Constitution, et de le réaliser pour préserver le fonctionnement de la République, le fonctionnement de la démocratie, et finalement la convivialité républicaine dans notre État.
Alors il y a toujours cette question qui dérange un peu Monsieur l'ambassadeur Atundu. Oui, il y a des gens qui réfléchissent autour des commissions, autour de la logistique et de tout ce qu'il faut, tout ce qui doit accompagner cette installation, cette mise en place, mais on sent que les choses dans les délais prévus ne marcheront pas, mais on se force quand même à publier des décrets, à publier des lois par rapport à des choses dont on sait que ça ne va pas marcher dans les délais tels que prévus.
Je vous ai dit que c'est un défi et nous devons le relever parce que pour une meilleure administration de notre pays, il faut que les entités deviennent beaucoup plus petites, comme on l'avons dit d'ailleurs dans la Constitution. Et donc, c'est un défi. Nous devons tout faire pour que cette organisation plus rationnelle et plus efficiente de notre République soit effective. Sans se précipiter, nous devons accélérer le processus. Nous sommes dans la phase d'accélération et non de précipitation.
Alors, et c'est là que Maître Soudi a dit, en terminant son propos, que le processus est déjà biaisé.
Non, je ne sais pas en quoi. En quoi le processus est biaisé? Le processus connaît un certain retard, je le lui concède, mais le processus continue à poursuivre la finalité recherchée, c'est-à-dire le démembrement des actuelles provinces, la constitution des nouvelles provinces et au départ l'état des lieux fait par ces différentes commissions.
N'allons-nous pas connaître un atterrissage forcé, M. l'ambassadeur Atundu, dans ce processus d'installation de nouvelles provinces?
Qu'est-ce que vous entendez par atterrissage forcé? Je ne sais pas. C'est-à-dire s'arrêter et ne pas continuer? Je ne pense pas. Vous savez, c'est que le peuple ou l'opinion doit savoir observer ce qui se fait ailleurs, pour comprendre que rien ne se fait sans la persévérance. On vous dira que la Belgique a commencé la décentralisation tel moment, et jusqu'à présent, elle, même ici chez nous, la décentralisation dans sa forme actuelle a commencé avec le professeur Vondoué dans les années 80. Merci. L'expérience du Kivu ayant été concluante, et maintenant on passe dans une autre phase.
Merci monsieur l'ambassadeur. Maître Fabrice Kamala Mukonga, nous prenons pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
Didier Serge Moussanga de Kinshasa. Diriger, c'est avoir puisé une expérience dans le passé. La RDC n'est pas sa première expérience avec les 26 provinces. Et encore, il ne faut pas faire croire que le fait de partir de 11 à 26 provinces est une panacée ou encore une solution la plus absolue et la plus durable. Elle est comme le fait qu'on s'y engage dans l'impréparation, la précipitation et la confusion. Quel résultat peut-on attendre d'une commission qui n'a que 30 jours pour faire un travail qui mérite plus de temps et de sagesse et son ampleur? Non, c'est la complaisance pure et simple.
Maître Fabrice, comment vous, qu'est-ce que vous répondez à Didier Moussanga?
Tout en partageant en partie son point de vue, je vais plus au-delà en lui disant que la commission, ne pouvant pas faire les travaux dans 30 jours, cette commission qui doit faire les travaux dans 30 jours devrait d'abord exister. Donc le problème subsiste en entier, substantiellement. Ce que il postule pour la précipitation, je dis que oui. Je dis que oui, je partage son point de vue.
Alors, a-t-on tiré des leçons de l'expérience du passé de la RDC en termes de décentralisation?
Je pense que le législateur n'a pas suffisamment mûri de l'expérience du passé. Il aurait dû s'en imprégner suffisamment avant de projeter le découpage. Il devrait lire l'histoire pour bien comprendre le présent et projeter. Et ne le faisant pas, nous sommes en proie de toutes ces confusions. Nous sommes en proie de toute cette instabilité à venir par rapport à ces commissions qui seront installées. Parce que je pense que l'État ne doit pas hisser en principe le respect des normes tout en dressant une passerelle où sa propre faillibilité devient une exception. Parce que on essaie d'excuser la faillibilité de l'État ici. On essaie d'expliquer. Or, si c'était un citoyen, ça ne pouvait pas être pareil. Et je pense que l'État doit tirer des leçons suffisantes du passé pour bien projeter dans l'avenir, pour éviter des crises institutionnelles à répétition. Parce que des crises multiformes que nous avions connues ont basiquement eu pour raison la crise institutionnelle. La crise institutionnelle. Et là, nous sommes en train d'aller droit vers une crise. Nous devons nous arrêter, réfléchir et voir où nous sommes en train de partir.
Et comme cette émission est aussi pédagogique, Maître Fabrice Kamala, et en termes simples, vous voulez dire que tout devrait partir en fait des actes juridiques clairs et non conflictuels.
Tout à fait. Parce que c'est l'acte juridique qui définit l'action politique. C'est un moyen d'action politique. Lorsqu'il n'y a pas une définition claire de l'action politique à poser, une définition claire de l'institution politique à poser l'acte, nous espérons aboutir à quoi? Je n'espérais pas beaucoup, je n'attendais pas beaucoup de l'installation de ces commissions, pour autant qu'il y a déjà des flous qui ont postulé tout au début. Des prémices fausses, on ne peut pas aboutir à des conclusions vraies. Loin s'en faut.
Alors, partagez-vous l'avis de Maître Soudi selon lequel on est en train de tâtonner et qu'on a politisé les choses?
Tout à fait. À outrance d'ailleurs. À outrance, on est en train de tâtonner, oui. On est en train de tâtonner parce que vous avez suivi les conseils du vice-premier ministre qui tire les doigts de son côté, qui se rattache, qui cherche certaines explications, mais des explications éminemment politique. Il s'en préoccupe pas du respect de la loi, mais je pense qu'il est plus que temps, parce que nous sommes un État démocratique. Nous devons hisser la conscience collective en respectant notre pays, en fondant toute notre action politique sur les droits, sur le respect de la loi et des règlements.
Alors, dans votre précédente intervention, vous avez dit qu'on doit s'arrêter pour réfléchir et voir ce qu'il faut faire. Ici et maintenant, Maître Fabrice Kamala, qu'est-ce qu'il faudrait faire?
Ce qu'il faut faire en premier, c'est qu'on puisse suspendre ces décrets. Qu'on puisse suspendre ces décrets. Parce que ces décrets, dans son essence même, son application amènera une forte confusion dans l'État. Une forte confusion au sein des institutions et plus particulièrement à une institution d'exercice des pouvoirs de proximité qui est la province. Et qu'on puisse s'arrêter pour éviter qu'il y ait cette crise institutionnelle. Et réfléchir comment avancer. Nessers de Niota, pas avancer à pas de géants, à pas d'élus, non.
Et donc, il y a encore beaucoup à faire.
Tout à fait.
Voilà, Maître Soudia, pour vous, cette réaction qui nous vient de Kananga au Kasai Occidental.
Maître Adrien Ilobakwe Ipero à Kananga au Kasai Occidental. Je me demande, pourquoi cette mission n'était-elle pas confiée aux assemblées provinciales pour faciliter la tâche, étant donné que celles-ci maîtrisent bien la situation de leurs différentes provinces?
Maître Soudi.
Bon, je crois que peut-être s'il fallait que personnellement je donne un avis là-dessus, par expérience, et on l'a vu lorsque il y a des commissions qui sont descendues dans les provinces pour certifier les chefs traditionnels, il y a eu trop d'abus au niveau de différentes assemblées provinciales. Il a fallu une personnalité neutre de l'administration publique centrale pour parvenir à régler de manière beaucoup plus équitable cette question. Je crois que ceci, peut-être, a pu militer à ce que notre Assemblée nationale. Puis c'est parce que moi j'ai suivi la faute là-bas.
Et donc vous pensez que c'est pour éviter des conflits d'intérêts?
Effectivement. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faudra que l'opinion puisse encore être rappelée sur quelque chose. Le découpage, ce n'est pas ça la décentralisation. Le découpage, c'est une des techniques de la décentralisation. Mais chez nous, le découpage ne vient pas avec le vent politique actuel. Il vient d'abord du dialogue intercongolais. Après le dialogue intercongolais qui avait recommandé à ce que notre constitution de 2006 puisse intégrer cela, ceci a été intégré à la constitution et un référendum a été organisé. Au lancement de ce processus, il y a eu un forum national sur la décentralisation qui a été organisé et toutes les couches de la population ont soutenu cela. Évidemment, la constitution qui avait prévu 36 mois et ainsi de suite, il fallait qu'elle soit modifiée parce que les 36 mois, lorsqu'à l'époque nous disions qu'il fallait qu'il y ait un processus et qu'on puisse utiliser des méthodes progressives pour la mise en œuvre de la décentralisation en général, on s'est compris des découpages, on n'avait pas compris. Et quand on était dans l'impossibilité d'installer les 25 provinces plus la ville de Kinshasa, qu'on était obligé maintenant de modifier la constitution. On a modifié la constitution. Et cette modification a induit une loi de programmation. Il n'y a jamais eu de soulèvement à travers la République. Ce qui m'écœure et m'étonne des fois, c'est lorsqu'on veut lier ces processus avec les élections et autre chose. Toutes les élections peuvent s'organiser alors que ce processus est en train de se faire de manière progressive. Nous pensions même que on pouvait, la loi de programmation pouvait même, excusez-moi la tautologie, programmer province par province. Celle-ci est prête et nous pensions, et là encore, je le répète aujourd'hui, on a inversé le rôle dans la loi. Il fallait doter d'abord des infrastructures minimum avant d'installer. Et la province qui réunit des infrastructures minimum, c'est celle-là qui pouvait commencer à être démembrée.
Et donc, Maître
Soudi, ainsi de suite. C'est ça la loi, l'esprit que nous autres, nous avions de la loi de programme.
Alors, il y a un élément important que vous avez cité tout à l'heure. Il n'y a pas d'antagonisme entre les élections et le découpage.
Je suis prêt à engager ce débat avec quiconque le voudrait. Parce que, je l'ai dit ici, lorsqu'on veut voir la politique dans tout, on biaise tout. parce que le découpage peut être en train d'être fait et toutes les élections peuvent s'organiser. Qu'est-ce qui empêche?
Alors, maître, ici et maintenant, par rapport au problème que pose le décret, la mise en application, maître Fabrice Kamala propose, par exemple, qu'on suspende les décrets et qu'on réfléchisse à autre chose. Quel est votre avis?
Bon, je pense que le confrère conviendra avec moi que même si on suspend les décrets, la loi continue à courir. Le problème, c'est la loi. Le premier problème commence par la loi. Les délais de 120 jours, tels que chronogrammés, dans la loi, je vous dis même par magie, parce que je vous parle comme ceux qui connaissent aussi comment nous fonctionnons dans notre pays, ça sera très difficile. Même les commissions là des 30 jours, elles ont été nommées. La simple procédure de décaissement, des moyens pour les déployer, la procédure régulière chez nous, peut vous prendre plus de 30 jours.
Engloutir tous les délais.
Engagement, liquidation, etc., etc. 30 jours, ça s'épuise comme ça. Et les processus de financement suivent son cours normal. Ce que je vous dis ici, ce n'est même pas un secret. Tous les fonctionnaires de l'État le savent. Tous les responsables des institutions le savent. Il y en a qui ratent des missions à cause de la procédure.
Alors le problème, il est où dans le chef des Congolais? Est-ce qu'on ne sait pas prévoir les choses?
Non, c'est
pas
la rationalité.
C'est à quel niveau?
C'est la rationalité. Il faut être rationnel lorsqu'on prend des décisions. Pour moi, cette loi-là, la rationalité, impliquerait la considération des délais réels par rapport à ce que nous avons comme contrainte dans notre pays.
À ce stade, maître, ce processus est-il en danger?
Bon, généralement, je ne pense pas qu'il y ait un danger, tout simplement parce que ça va nous amener à la modification de la loi. Mais j'en appelle à nos élus, lorsqu'ils vont modifier, parce qu'on va en arriver là. Lorsqu'ils vont modifier la loi, qu'ils la modifient en tenant compte des délais.
Raisonnable. Voilà, monsieur l'ambassadeur Atundu, en guise de conclusion, comment vous entrevoyez l'avenir du processus de découpage, d'installation des nouvelles provinces, ainsi de suite?
Je crois que ça doit continuer, ça va continuer, puisque l'engagement du gouvernement à respecter la volonté du peuple, telle que consignée dans la Constitution, est intact. Il est évident que, compte tenu d'un certain nombre d'imperfections, s'il faut ainsi s'exprimer, détectées ça et là, on sera obligé à prendre peut-être un décret complémentaire, un décret d'amendement. Je crois qu'il faut être positif et que les difficultés ne sont pas là pour nous arrêter, mais c'est pour nous permettre d'accélérer et d'avancer. Alors, à l'endroit de Maître Fabrice, je voudrais lui dire que le fait précède le droit, corrige le droit et source de droit.
Et là, c'est déjà en guise de conclusion.
D'où
aussi
la possibilité de la prise d'un décret d'amendement, comme je l'ai dit. C'est une possibilité à envisager. Et deuxièmement, la suspension demandée par Maître Fabrice suppose, et c'est d'abord sur le plan juridique, c'est une prétention.
Et c'est par là que vous
voilà, c'est une prétention et donc nécessite l'intervention d'un juge ou d'un arbitre. Donc il peut toujours dire au gouvernement suspendez ça, mais comme l'a dit Maître Soudi, la loi continue à courir.
Merci,
donc
monsieur
il faut éviter de donner un caractère fatal à une imperfection.
Merci.
De la loi qu'on peut amender.
Maître Fabrice, en guise de conclusion.
Oh, loin de moi de donner un caractère fatal à la loi, la suspension que j'ai pu demander, c'est en conformité de mon recours qui a un effet suspensif par rapport aux effets des décrets. Mais je serai obligé, comme l'a dit monsieur l'ambassadeur, de saisir les juges de la légalité au cas où son excellence monsieur le Premier ministre ne répondait pas conformément à mes désidératas dans ma requête.
Voilà. Maître Soudi, conclusion.
J'apprécie les contrôles citoyens de Maître Fabrice. Je l'encourage dans cette démarche. Mais moi, je pense qu'il faudrait que notre Parlement pense déjà à l'amendement de la loi elle-même pour donner des délais raisonnables qui puissent permettre à ce qu'une bonne évaluation du patrimoine dans lequel se trouve l'actif et le passif des actuelles provinces soit effectué.
Merci messieurs d'avoir pris part à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Bonne suite des programmes sur la radio de la paix. Au revoir.